Sur ce, je vous invite à tourner dans la parole de Dieu. Dans Daniel chapitre 7. Pendant la première année du règne de Balthazar à Babylone, Daniel fit un rêve et son esprit fut assailli par des visions. Alors qu'il était couché sur son lit, plus tard il mit par écrit son rêve. Le voici tel qu'il l'a raconté. Durant la nuit, j'ai vu, en vision, le vent se déchaîner des quatre coins de l'horizon sur la mer immense. Quatre bêtes énormes sortirent de la mer. Chacune était différente des autres. La première ressemblait à un lion, mais elle avait des ailes d'aigle. Tandis que je regardais, ses ailes lui furent arrachées. Elle fut soulevée de terre, dressée sur ses deux pattes de derrière, comme un être humain. Et elle reçut une intelligence humaine. La deuxième bête, semblable à un ours, était à demi levée et tenait trois côtes dans sa gueule, entre ses dents. Elle reçut l'ordre de se lever tout à fait et d'aller dévorer beaucoup de chair. Je continuai de regarder et je vis une autre bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait quatre ailes d'oiseau sur le dos, ainsi que quatre têtes, et elle reçut un pouvoir de domination. Je continuai de regarder les visions qui m'apparaissaient pendant la nuit. La quatrième bête que je vis était effrayante, terrifiante, animée d'une puissance extraordinaire. Elle avait de grandes dents de fer pour manger et déchiqueter ses victimes, et elle piétinait ce qu'elle ne mangeait pas. Elle était absolument différente des trois bêtes précédentes et avait 10 cornes. Tandis que j'examinais ses cornes, une nouvelle corne, plus petite, se mit à pousser parmi les autres et fit tomber 3 d'entre elles. La nouvelle corne avait des yeux comme un être humain et une bouche qui prononçait des paroles orgueilleuses. Je continuai de regarder. Des trônes furent mis en place et un vieillard vient s'asseoir. Il avait des habits blancs comme la neige et sa chevelure était comme de la laine pure. Son trône flamboyant avait des roues qui brillaient comme un feu ardent. Un fleuve de feu jaillissait et s'écoulait devant lui. Des millions, des dizaines de millions de personnes se tenaient devant lui pour le servir. Alors, le tribunal prit place et des livres furent ouverts. Je continuais de regarder à cause des paroles orgueilleuses et bruyantes que la petite corne prononçait. Et tandis que je regardais, la quatrième bête fut tuée. On détruisit son corps en le jetant dans un feu intense. Les autres bêtes furent privées de leur souveraineté, mais on leur accorda une prolongation de vie pour un temps déterminé. Je continuai de regarder les visions qui m'apparaissaient pendant la nuit. Un être semblable à un homme arriva parmi les nuages du ciel. Il s'avança en direction du vieillard devant lequel on le conduisit. La souveraineté, la gloire et la royauté lui furent données, afin que les populations de tout pays, de toute nation et de toute langue le servent. Sa souveraineté durera éternellement, elle n'aura pas de fin et son royaume ne sera jamais détruit. L'angoisse me saisit, moi, Daniel, jusqu'au plus profond de mon être, tant ces visions étaient terrifiantes. Je m'approchai d'un des personnages présents et je lui demandai le sens véritable de ce que j'avais vu. Il m'en fit alors connaître la signification. Ces quatre bêtes énormes représentent 4 royaumes d'origine terrestre. Après eux, le peuple saint du Dieu Très-Haut recevra la royauté et il la conservera à tout jamais. Ensuite, je désirais être au clair au sujet de la quatrième bête, celle qui était absolument différente des 3 autres. Elle était effrayante au plus haut point, avec ses dents de fer et ses griffes de bronze. Elle mangeait et déchiquetait ses victimes, et elle piétinait ce qu'elle ne mangeait pas. Je me renseignai également à propos des 10 cornes que la bête avait sur la tête, et à propos de la corne qui s'était mise à pousser et avait fait tomber 3 d'entre elles. Cette corne-là avait des yeux et une bouche prononçant des paroles orgueilleuses et elle paraissait plus grande que les autres. Tandis que je regardais, elle faisait la guerre au peuple saint et était en train de triompher. Mais le vieillard s'avança et rendit justice au peuple saint du Dieu Très-Haut. Lorsque le temps fut venu, le peuple saint entra en possession de la royauté. L'explication suivante me fut donnée. Le quatrième bête représente un quatrième royaume d'origine terrestre, différent de tous les autres. Ce royaume réussira à dévorer toute la terre, à la piétiner et à la déchiqueter. Les 10 cornes représentent 10 rois qui se succéderont à la tête de ce royaume. Un onzième roi différent des précédents prendra le pouvoir après en avoir écarté trois autres. Il prononcera des paroles insolentes à l'égard du Dieu Très-Haut et opprimera le peuple saint. Il formera le projet de modifier le calendrier et la loi du peuple saint, et celui-ci sera livré à son pouvoir pendant trois ans et demi. Ensuite, le tribunal céleste siégera et le privera de sa souveraineté. Cette souveraineté sera anéantie, définitivement détruite. La royauté, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes terrestres seront attribués au peuple saint du Dieu Très-Haut. La royauté de ce peuple durera éternellement, et toutes les puissances du monde lui obéiront et le serviront. Ici se termine le récit. Quant à moi, Daniel, je fus absolument terrifié par mes pensées. J'en devins tout pâle et je ne cessais pas d'y réfléchir. Alors, on a une grande partie, c'est une très mauvaise nouvelle, parce que ça nous raconte ce qui va arriver dans le monde, dans la fin des temps. Mais aussi, on a une bonne nouvelle. C'est celle que le peuple de Dieu va régner avec Jésus-Christ. Et on va regarder ça tantôt, mais quand on regarde les signes de la fin des temps, quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur, frères et sœurs, on est peut-être la génération en train de vivre ce retour prochain de Jésus-Christ. Vous faites peut-être partie de cette génération de chrétiens qui ne connaîtra pas la mort physiquement, puisque votre corps risque d'être transformé en un clin d'œil et recevoir ce corps glorifié, ce que toutes les générations de chrétiens ont rêvé. Et ici, pour la première fois, on va le voir, on a une définition générale de la fin des temps. C'est la première qu'on reçoit de façon générale concernant les prophéties de la fin des temps. Et on va voir pourquoi, à partir de Daniel, on va voir ce qui va se vivre dans les temps prochains, parce qu'on parle de gouvernement mondial, on parle de plus en plus de nommer quelqu'un. Un politicien qui serait capable de se tenir debout, qui serait capable de faire plier les gens parce que les pays sont à bout de souffle, les pays n'arrivent plus à gouverner et à contrôler leur population. Et à différents endroits dans le monde, même les gens, non seulement les dirigeants, mais même les gens recherchent quelqu'un, un dirigeant qui pourrait les diriger avec une poigne de fer, qui pourrait les discipliner, et ainsi de suite. J'aimerais simplement vous montrer jusqu'à quel point on a besoin de discipline dans nos vies, comment on a besoin d'être dirigé dans nos vies. Je ne parle pas par un dictateur, mais je lisais un article cette semaine qui disait que les cours de morale et de religion catholique, les enfants abandonnent les cours de morale et de religion catholique dans l'école pour se retourner vers la religion de l'islam. Et vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas là pour vendre l'islam, absolument pas. Mais à l'intérieur de l'islam, il y a une sécurité qui est installée, il y a une discipline qui est installée, il y a une autorité qui est mise en place et ça sécurise les gens. Et quand on regarde le cours de morale avec le cours catholique et le cours protestant qui s'en vient, sont presque à peu près la même chose, eh bien, les enfants veulent avoir quelque chose d'autre, veulent avoir quelque chose de différent, parce qu'avec les couples qui travaillent, souvent, les enfants manquent d'encadrement, et vraiment, cette religion, elle est parfaite pour encadrer les enfants, pour se sentir encadré, se sentir en sécurité, mais on sait que cette religion ne vient pas de Dieu. Et malheureusement, dans le monde, c'est la même chose, au niveau politique, au niveau social, au niveau spirituel. On a soif d'avoir un dictateur qui va nous montrer le chemin, qui va nous diriger, qui va nous sécuriser. Parce que les gens, quand les gens ont leur cœur vide, s'ils n'ont pas Dieu dans leur vie, ils vont aller chercher un antichrist, c'est-à-dire un adversaire de Christ qui va les manipuler et qui va finalement les contrôler. Et Daniel parle de ces choses-là. Dieu lui a révélé, c'est une révélation que peu d'hommes ont reçue, parce que par la suite, on voit que dans les évangiles, on a des parties de cette révélation-là à travers Jésus-Christ, à travers les auteurs de l'Évangile. On en a aussi dans l'Apocalypse concernant la fin des temps. Mais le Seigneur nous a avertis d'avance et nous demande de nous préparer. Soyez prêts, car vous ne connaissez pas le moment où je viendrai. Et frères et sœurs, je ne suis pas un prophète. Je lis ma Bible. Je devrais la lire plus souvent, encore davantage, c'est-à-dire davantage, plus profondément. Mais je sais une chose, frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt. Bientôt. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Alors, tantôt, ce que j'ai mentionné, c'est que Daniel révèle une des visions les plus surprenantes de la Bible. Il raconte un rêve étrange qu'il a fait en 553 avant Jésus-Christ, dans lequel il a reçu une révélation imagée de l'histoire de l'humanité à partir de son époque jusqu'à la fin des temps. même si une grande partie de cette révélation qu'il a reçue a déjà été réalisée, il est fort possible que la partie qui reste ne tardera pas à s'accomplir. Un mot d'abord sur le livre de Daniel, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, et un petit rappel, ça fait quand même quelques semaines, presque un mois, qu'on n'a pas plongé nos regards dans ce livre. Ce livre ancien se divise clairement en deux parties. Les six premiers chapitres sont une biographie qui raconte l'histoire de la déportation de Daniel à Babylone et de ses aventures devant les tribunaux causées par différents rois païens. Et on le voit à de nombreuses reprises, nous avons vu qu'il avait été mis sous pression face au complot de ses ennemis, mais promu par Dieu à occuper des postes de pouvoir aussi importants, de plus en plus importants au sein de l'autorité babylonienne. Et lorsque nous arrivons au chapitre 7, le livre passe de la biographie à la prophétie. Et les six derniers chapitres racontent en détail quatre visions que Daniel a reçues au cours des 20 dernières années de sa vie. Et ces visions sont centrées sur les nations et les empires du monde, en particulier pour ce qui concerne le plan de Dieu pour Israël. Et la première et la plus importante de ces visions se trouve bien sûr dans Daniel chapitre 7. Et le théologien John Walward a dit de cette vision qu'elle était celle qui, dans l'Ancien Testament, qui était la plus facile à comprendre concernant le futur. Donc vous allez voir que ce n'est pas déjà facile à comprendre, mais il s'est dit que c'est la plus facile. Essayez pas trop d'aller trop loin pour décortiquer les autres, parce que dans les autres livres, parce que c'est pas évident. Mais il dit que de nombreux scribes juifs considéraient le chapitre 7 comme étant le chapitre le plus important de l'Ancien Testament, et ceux qui ont écrit les quatre évangiles l'ont cité de nombreuses fois. Dans les versets 1 à 9 au chapitre 7, eh bien, nous lisons que durant la nuit, alors qu'il était couché sur son lit, Daniel va faire un rêve et des visions vont lui apparaître pendant son rêve. Et on a vu tantôt qu'il avait vu quatre vents du ciel fouetter les eaux de la mer Méditerranée. Puis, sans prévenir, quatre bêtes énormes vont sortir de la mer. Chacune était différente des autres. Et la première, eh bien, on a vu, elle ressemblait à un lion, avec des ailes d'aigle. Et la deuxième bête ressemblait à un ours qui se tenait sur le côté. Et la troisième bête ressemblait à un léopard qui avait quatre ailes d'oiseau sur le dos ainsi que quatre têtes. La quatrième bête que vit Daniel, eh bien, il décrit cette bête comme étant effrayante, voire même plus terrifiante que les trois premières. Elle était animée, dit-il, d'une puissance extraordinaire. Elle avait de grandes dents et avait 10 cornes sur sa tête. Et tandis que Daniel examinait ses cornes, une nouvelle corne plus petite se mit à pousser parmi les autres et va faire tomber trois cornes d'entre elles. Et la nouvelle corne avait des yeux comme un être humain. Donc, il ne faut pas vous imaginer, hein. Ça me fait penser à un dessin animé là, à la télévision, là, des petits bonhommes qui ont juste un œil dans le front, là, hein. Ben, il ne faut pas s'imaginer. Vous imaginez une corne avec un œil. On ne verra pas ça nulle part. C'est vraiment une vision apocalyptique, finalement, imagée de la fin des temps. Alors voilà, alors tandis qu'il examinait ses cornes, une nouvelle corne plus petite se mit à pousser parmi les autres et fit tomber trois d'entre elles. Et la nouvelle corne avait des yeux comme un être humain et une bouche. Elle a commencé à se vanter et à blasphémer contre Dieu. Et dans les versets 10 à 11, on a lu tantôt que Daniel vit à ce moment-là des trônes qui sont apparus et l'Ancien des Jours vient s'asseoir pour juger le monde. Et on sait que l'Ancien des Jours dans la Bible, eh bien, ça parle de Dieu, c'est pour parler de Dieu. Et la quatrième bête fut détruite et jetée dans un feu intense. Daniel continuait à regarder et il vit quelqu'un semblable à un fils de l'homme qui va arriver pour établir son royaume sur la terre. Et nous savons que le terme fils de l'homme, ça fait référence au Messie. Et c'est reconnu en fait autant par les exégètes juifs que par les chrétiens. Maintenant, qu'est-ce que tout cela signifiait? Eh bien, nous pouvons faire une comparaison entre ce rêve que Daniel a fait au chapitre 7 et le rêve que le roi Nebuchadnezzar a fait au chapitre 2. Dans ce rêve, vous vous souvenez, le roi avait vu une statue immense composée de 4 métaux. La tête de cette statue était faite d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Une pierre se détacha de la montagne. Dans sa vision, il voit une pierre qui se détache de la montagne, qui frappe les pieds de fer et d'argile de la statue et qui la met en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble. La pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et Daniel a expliqué au roi la signification de son rêve. Il a dit que les quatre métaux représentaient quatre empires mondiaux successifs, diminuant en valeur morale du premier jusqu'au dernier, mais continuant à augmenter en puissance. Nebuchadnezzar et l'empire babylonien représentaient la tête d'or. C'est ce qu'il explique, Daniel. Trois autres empires viendront plus tard, et l'histoire nous apprend que ces trois autres empires étaient ceux des Mèdes et des Perses, de la Grèce et celui de Rome. Et Daniel expliqua que les pieds de fer et d'argile représentaient un royaume qui manquait d'unité. Une partie de ce royaume serait forte et une partie fragile. La pierre qui frappa les pieds représente la seconde venue de Jésus-Christ. À l'époque de ces rois-là, Dieu du ciel établira un royaume sur la terre qui ne sera jamais détruit. Ce royaume écrasera tous les royaumes précédents et mettra fin à leur existence, puis ce royaume subsistera éternellement. Quel lien existe-t-il entre ces deux rêves, entre celui que Nabucodonosor a fait au chapitre 2 et celui que Daniel a fait au chapitre 7? Eh bien, dans les versets 17 et 18 du chapitre 7, un ange dit à Daniel que les quatre animaux représentent quatre royaumes d'origine terrestre, mais que le peuple saint du Dieu Très-Haut posséderait le royaume d'éternité en éternité. La mer que Daniel a vue au verset 2 représente un premier groupe, celui de la mer de l'humanité, l'agitation des peuples et des nations, des politiques et des armées. Puis un deuxième groupe visant le pouvoir, et de ce chaos, quatre royaumes symbolisant les quatre bêtes vont apparaître l'une après l'autre. Finalement, dans les derniers jours, il y aura un cinquième royaume qui apparaîtra lorsque le Seigneur Jésus reviendra avec puissance et gloire. Ce royaume, ce sera le royaume de Dieu sur la terre. Vous êtes amen à ça? Oh, vous êtes stimulant ce matin? Vous êtes amen à ça? Ah, voilà. Pourquoi les quatre empires sont-ils comparés à des métaux dans le premier rêve et à des bêtes dans le deuxième rêve? Dans Daniel 2, la statue que Nabucodonosor a vue en rêve nous font voir les empires du monde tels que l'homme les voit. Ils ont une belle apparence, possédant beaucoup d'argent et beaucoup de connaissances. Ils sont grandement admirés par leurs œuvres et méritent souvent les louanges des hommes. Mais dans Daniel 7, nous voyons les mêmes royaumes, mais de la façon dont Dieu les voit. Au chapitre 2, on voit les royaumes de la façon que l'homme les voit, et dans le chapitre 7, on voit les royaumes de la façon dont Dieu les voit. Et on va voir que Dieu ne voit pas les royaumes de la même façon que les hommes les voient. Ce sont des bêtes féroces, disposées à conquérir, à piller, à détruire et à dominer. Dieu voit au-delà de tout ce qui brille dans le monde, frères et sœurs. Il voit la nature dépravée qui se trouve à l'intérieur du cœur de chaque dirigeant humain. Il ne se laisse pas berner par les puissantes armées, les jardins suspendus, les vastes palais et les fêtes somptueuses. Il sait que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, désespérément méchant et plein de malice. Et Daniel 7 nous montre également la nature de chaque royaume construit par l'homme. Ils sont terrestres, ils sont brutaux, destructeurs et finalement temporaires. Rien qui est fait par les mains de l'homme ne dure éternellement. Un royaume tombe, un autre apparaît pour ensuite disparaître et être remplacé par un autre royaume. Il en va de même, frères et sœurs, dans tous les domaines de l'activité humaine. C'est l'histoire de l'humanité jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Alors et pas avant, tous les royaumes terrestres seront définitivement remplacés par le royaume de Dieu. Et ce royaume, frères et sœurs, il durera éternellement. Si nous voulons faire un bref résumé de ce que nous venons de dire, ça sera peut-être plus facile à comprendre dans le résumé. Par rapport à Daniel 7, nous pouvons dire ceci. Daniel a vu quatre bêtes sortir de la grande mer de l'humanité. Les quatre bêtes représentent quatre empires du monde. L'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire de la Grèce et l'empire de Rome. Le quatrième royaume, celui de Rome, existera sous diverses formes jusqu'au dernier jour. Ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'aucun autre empire a remplacé l'empire romain, qui est tombé en 476 après Jésus-Christ. Bien que l'empire romain se soit effondré, les vestiges de cet empire ont continué à exister sous différentes formes à travers les siècles, conduisant finalement au Saint-Empire romain germanique, aux États-nations d'Europe et finalement aux nations modernes de l'Europe et du bassin méditerranéen. Juste une petite, au niveau religieux, eh bien, vous avez l'Église catholique romaine. L'Empire romain n'est jamais complètement disparu. Nous avons encore ces valeurs de l'Empire romain qui circulent dans notre monde. Depuis la chute de l'Empire romain, aucune nation n'a conquis Rome et aucun empire ne l'a remplacé. Il est juste de dire qu'il n'y a eu que quatre grands empires qui ont régné dans le monde à partir de l'époque de Daniel jusqu'à aujourd'hui. En utilisant les termes de Daniel 2, cela signifie que depuis 476 après Jésus-Christ, nous vivons toujours d'une certaine façon dans la période de la quatrième bête, c'est-à-dire dans la période des pieds de fer et d'argile. On pourrait se demander pourquoi la Bible ne parle pas des empires de Chine, de l'Asie centrale et de l'Afrique, puisqu'il y a eu des empires en Chine, puisqu'il y a eu des empires en Afrique et en Asie centrale. Tout simplement parce que du point de vue de Dieu, frères et sœurs, tout dans la Bible tourne autour d'Israël. Les seuls empires mondiaux, mondiaux qui comptent, sont ceux qui touchent le plus beau des pays. J'aime bien l'expression de Daniel dans chapitre 8, verset 9. Il appelle Israël le plus beau de tous les pays. Une expression qu'on retrouve pour parler d'Israël. Dans le passé, le Seigneur a entouré Israël, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, dit-il dans Deutéronome. Là où habite Israël, frères et sœurs, c'est l'endroit choisi pour Dieu, pour son peuple élu. La Bible tient compte à la fois de l'histoire et de la géographie en ce qui concerne Israël. Les empires qui n'ont rien à voir avec Israël ne sont pas mentionnés, et ce, même si ces empires pourraient être autrement très importants dans le contexte plus large de l'histoire du monde. Maintenant, 10 rois vont provenir du quatrième royaume, mais je suppose que ces 10 rois représentent 10 dirigeants ou nations de la fin des temps qui seront en quelque sorte liés au territoire de l'ancien empire romain. Allez faire un tour dans un peu en arrière, allez voir de quoi se composait l'empire romain, et vous allez voir que l'Europe est en train justement d'aller chercher ces pays-là. Là, il va y avoir une reproduction de l'ancien empire romain à la fin des temps. On appelle ça souvent l'Europe, les États-Unis d'Europe, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe. On n'aime pas, les politiciens européens n'aiment pas qu'on appelle ça comme ça, mais c'est vraiment ce qu'on est en train de faire, de reproduire l'ancien empire romain, au niveau, en tout cas pour l'instant, au niveau géographique. Un roi naîtra parmi les 10 nations et deviendra dominant, nous dit Daniel dans sa vision. Et encore une fois, on ne sait pas qui sera cette personne, ni comment il va accéder au pouvoir, ni comment il va maîtriser les 3 rois parmi les 10. On a dit ici tantôt, on a lu qu'il y a 3 rois qui vont quand même demeurer. Et je pense qu'on va savoir tout cela dans les jours qui vont précéder le retour de Jésus-Christ. Dans les versets 24 à 27, Daniel nous donne la première révélation étendue de la Bible sur l'Antichrist. Vous avez, comme je l'ai dit tantôt, d'autres informations dans Matthieu 24, dans 2 Thessaloniciens 2 et dans l'Apocalypse 13 à 19. Mais nous avons ici la première révélation étendue de la Bible sur l'Antichrist. Nous découvrons maintenant dans la vision de Daniel le caractère de cette petite corne. L'Antichrist sera, c'est ce qu'il dit au verset 25, l'Antichrist sera un homme arrogant qui attaquera le peuple saint et blasphémera contre Dieu. Il mentionne clairement qu'il prononcera des paroles insolentes à l'égard du Dieu Très-Haut et qu'il opprimera le peuple saint dans son ascension pour dominer le monde. Chemin faisant, il persécute les saints de Dieu et blasphème ouvertement contre le Seigneur Dieu. À la fin, il s'érigera comme étant Dieu sur terre et ordonnera à tout le monde de l'adorer. Moi, je peux vous donner ma position. Je ne l'ai jamais obligé à personne de prendre ma position. Je crois sincèrement que si Dieu n'a pas épargné la première Église primitive dès la persécution, il ne préparera pas la dernière de la persécution non plus. L'apôtre Pierre dit que le ménage va d'abord se faire dans l'Église avant de se faire dans le monde. Et je pense que Dieu va séparer les enfants de nom, les chrétiens de nom et les chrétiens de cœur avant que le Seigneur Jésus-Christ arrive. C'est ma position. Vous êtes pas, je peux vous donner tous les versets, parce que finalement, il y a des versets qui donnent les trois positions, mais qui nous permettent de pouvoir adapter les 3 positions. Mais il y a quand même des éléments que je trouve dans la Bible qui me permettent d'aller vers la dernière. Je vous en veux pas si vous ne pensez pas comme moi, puisque moi, j'ai adopté les 3 positions depuis que je suis au Seigneur. Donc, j'ai commencé avec la première, j'ai lu la Bible, j'ai commencé avec la deuxième. Et puis, en lisant, en méditant, je suis tombé sur la troisième. C'est-à-dire que le Seigneur, c'est qu'au niveau de la persécution, je suis de moins en moins convaincu que l'Église ne vivra pas les grandes tribulations. Verset 25, il ajoute cette information cachée. Il formera le projet de modifier le calendrier et la loi du peuple saint. On a lu ça tantôt, Personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, ça, de modifier le calendrier et la loi du peuple saint. Cela implique peut-être qu'il modifiera le calendrier liturgique en y insérant des fêtes païennes, je ne sais pas. Est-ce qu'il va changer les lois en s'attaquant aux fondements moraux de la société? C'est possible. Mais lorsque l'Antichrist arrivera au pouvoir, le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Les valeurs morales seront inversées lorsqu'il fera sa dernière offre folle pour compléter sa domination sur la terre. C'est animé, Jean-François. Il est écrit dans la dernière partie du verset 5 que le peuple saint sera livré en son pouvoir pendant 3 ans et demi. Donc, on vient de régler un problème, 3 ans et demi. Alors, c'est 7 ans, hein? 3 ans et demi plus 3 ans et demi, ça fait 7. 3 ans et demi. On vient de régler 3 ans et demi. Il en reste 3 autres, hein? 3 ans et demi. Mais dans la dernière partie du verset 25, il est bien écrit que le peuple saint sera livré en son pouvoir pendant 3 ans et demi, puis il sera soudainement détruit par Dieu. Cela signifie qu'il aura les pleins pouvoirs, et on parle de l'Antichrist ici, pas du peuple saint qui va être détruit par Dieu, mais de l'Antichrist. Cela signifie qu'il aura les pleins pouvoirs sur toute la terre pendant cette période de temps. Je crois que cela se produira au cours de la dernière moitié de la période de tribulation de 7 ans, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne revienne sur la terre pour établir son royaume. Nous trouvons le récit de la grande bataille entre le Seigneur Jésus et l'Antichrist dans Apocalypse chapitre 19. Vous lirez ça à la maison. Le temps nous manque pour lire ces passages-là. Mais vous allez voir, vous voyez la bataille qu'il y aura entre Jésus-Christ et l'Antichrist dans Apocalypse chapitre 19, les versets 19 à 20. La petite forme dans Daniel chapitre 7 correspond à l'Antichrist, appelé aussi la bête dans le livre de l'Apocalypse. Bien qu'il porte plusieurs noms, c'est de la même fin qu'il attend à chaque fois. Il sera éliminé au sommet de sa puissance, détruit en un instant, complètement vaincu et jeté dans les temps de feu, où il sera torturé éternellement. Ce sera la destinée finale de la petite corne à la grande bouche, et cela se passera lors de la bataille d'Armageddon. Frères et sœurs, regardez le verset 27-28, « Les saints de Dieu hériteront du royaume et régneront avec Christ pour toujours. » Moi, ça me fait sourire des fois quand on parle avec des chrétiens. On se dit, écoute, on se parle ensemble et on se dit, mais écoute, qu'est-ce qu'on va faire là-haut? Il y a des chrétiens, ils te parlent, ils ont l'impression qu'ils vont être à la retraite pour l'éternité. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils vont avoir les deux bras croisés pendant toute l'éternité. Mes frères et sœurs, déjà, juste le mot « régner », c'est un verbe actif. Déjà, on va régner. On va régner avec Christ. On va régner avec lui. Sur quoi? Sur quoi? Bien, je vous invite à faire... À lire encore Apocalypse, c'est intéressant. Parce que même après la nouvelle terre et les nouveaux cieux, il y a des nations qui rentrent dans Jérusalem. Quelles sont ces nations? Mettez toute théologie de côté, là. Lisez la Bible telle qu'elle est. Parce que si vous lisez à partir d'une position théologique, vous allez être influencé. Mais lisez le texte biblique tel qu'il est. Quelles sont les nations qui rentrent à Jérusalem et qui doivent quitter après? Et que le peuple saint va habiter dans Jérusalem, dans la nouvelle Jérusalem. Nous, les enfants de Dieu, on va habiter avec Jésus-Christ dans la nouvelle Jérusalem où il n'y aura plus de nuit, parce que la gloire de Dieu va éclairer la ville. Mais quelles sont ces nations? Il y a une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Quelles sont ces nations? C'est intéressant à se poser comme question. C'est intéressant. Mais je suis persuadé que le règne, on va régner avec Christ, ça ne sera pas ennuyant, ça va être stimulant pour nous, et on ne pourra que le louer et l'adorer pour toute l'éternité, pour tout ce qu'il aura préparé pour nous. Parce que ce règne, frères et sœurs, il sera éternel. Le royaume de Dieu ne tombera jamais. Parce que tous les ennemis qui ont essayé de faire tomber le royaume auront été détruits et jetés dans le lac de feu. Dites amen à ça. Si certains de ces détails semblent difficiles à suivre, ne vous sentez pas mal à l'aise concernant le texte et ne soyez pas surpris. Lorsque Daniel a entendu l'interprétation de son rêve, il est écrit au verset 28 ceci, qu'il était absolument terrifié au point d'en devenir pâle. Il décida de ne dire à personne, probablement parce que la vision semblait être au-delà de toute compréhension humaine à son époque. Mais l'histoire se termine toujours de la même façon. Une fois que les royaumes terrestres auront été renversés et que le Seigneur aura établi son royaume, le peuple de Dieu règnera éternellement avec le Seigneur sur la terre. C'est la meilleure nouvelle de Daniel chapitre 7. Jésus-Christ gagne à la fin et ceux qui sont unis à lui par la foi partagent son triomphe. Le chapitre 7 de Daniel nous enseigne d'importantes vérités sur l'histoire de l'humanité à partir du point de vue de Dieu. Même s'il nous arrive de nous glorifier dans ce que nous faisons, Dieu voit l'histoire de l'homme comme étant une succession d'empires construits sur l'immoralité, la cupidité et la violence. Et à notre époque, ça ne change pas, c'est toujours la même chose. Frères et sœurs, nous baignons dans le faste et la gloire, nous nous consolons parce que nous avons des biens et nous nous entendons dire par certains que le monde va très bien. Mais Dieu voit à travers la fumée et à travers les miroirs. Il n'est pas dupe une seule seconde. Ce que nous aimons parce que nous nous trouvons cela beau, Dieu le voit comme étant quelque chose de moche, de décadent et de violent. Frères et sœurs, l'histoire de l'humanité atteindra un point jamais atteint, l'Antichrist, lorsque l'Antichrist régnera sur la terre. Ce sera l'apothéose de l'humanisme partout dans le monde. Et lorsqu'une civilisation met dehors Dieu, vous la remplacez par l'esprit de l'Antichrist. Lorsque vous supprimez les 10 commandements, vous voyez la brutalité, la méchanceté et l'orgueil se manifester ouvertement chez l'homme. L'esprit de l'Antichrist occupe alors toute la place parce que l'homme a horreur du vide. Et lorsque vous coupez tout contact avec Dieu, vous devez combler le vide par autre chose. Frères et sœurs, l'humanité sera à nouveau témoin de l'intervention directe de Dieu. C'est une merveilleuse nouvelle pour tous les croyants et une nouvelle terrifiante pour tous les autres. Rappelons-nous que dans les derniers jours, dit l'apôtre Pierre, apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs. Ils se moqueront de vous, ils se moqueront de moi, ils diront, il a promis de venir, n'est-ce pas? Eh bien, où est-il? Tout reste dans le même état, frères et sœurs, depuis le début de la création. Pourtant, ils se trompent sur toute la ligne. Jésus a dit, ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon au jour du Fils de l'homme. Est-ce que vous pensez, frères et sœurs, que cette époque, elle ne ressemble pas à celle de l'époque de Noé? Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, festoyaient, en avaient rien à cirer de Dieu. La preuve, il n'y a personne qui a voulu rentrer dans l'arche. Aujourd'hui, les gens se marient, les gens s'amusent, les gens festoient. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent accepter l'Évangile. Ils ont beaucoup trop de choses importantes à s'occuper. Frères et sœurs, ça ressemble étrangement à l'époque de Noé. Notre société ressemble étrangement à Sodome et Gomorre, et je pense qu'on n'a rien envié à Sodome et Gomorre. Frères et sœurs, le Seigneur est proche. Mais un jour, sans prévenir, la grande inondation vint alors et une civilisation entière fut détruite. Il y a quelque chose de plus dévastateur qui se produira lorsque Jésus reviendra et renversera toute son armée et son armée de fidèles. Quand Christ établira son royaume, ses saints régneront avec lui. C'est là notre espérance et c'est là notre espérance pour l'éternité, frères et sœurs. Nous qui sommes unis au Christ par la foi, nous régnerons avec lui. Nous qui sommes unis au Christ, nous, ça veut dire nous qui vivons comme le Seigneur Jésus nous demande de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot « uni » ici, hein? En Christ, ça veut dire « uni ». C'est une image du mariage. Nous qui ne faisons qu'un avec Jésus-Christ, parce que nous vivons comme lui nous le demande, parce que nous nous confondons en lui, parce que nous pensons comme lui, nous agissons comme lui et nous parlons comme lui, eh bien, la parole nous dit que nous allons régner avec lui. Frères et sœurs, nous qui sommes unis au Christ par la foi, nous régnerons avec lui, il remportera la victoire et nous recevrons de lui notre héritage, frères et sœurs, le royaume pour l'éternité. Prenons un peu de recul et examinons cette prophétie dans son ensemble. Une grande partie de cette prophétie, j'ai dit au début, qu'elle avait été déjà accomplie. Les 3 premiers royaumes sont apparus, sont disparus. Et le 4e royaume n'existe plus depuis 1600 ans en tant que royaume organisé. Cela ne devrait nous donner confiance pour le reste du chapitre 7 de Daniel, que ces choses qu'il explique dans la fin du chapitre 7 de Daniel vont un jour se réaliser. Si c'est ce qui doit vraiment arriver, que devons-nous surveiller dans le futur alors que nous voyons arriver la fin de cette civilisation? Frères et sœurs, je pense que je vous l'avais raconté, un jour je vais chez Carrefour, je regarde les revues. Il y a des revues, là, il y a plein de revues chez Carrefour, il y en avait pour les fins et les fous. Et il y avait un vieux monsieur, mais un gars du monde, hein, qui était entre 70 et 80 ans, qui était en train de lire une revue, c'était marqué « Histoire ». Et je voyais qu'il fronçait les sourcils, puis qu'il... Et j'ai dit, « Qu'est-ce que vous pensez du texte qui est écrit là? » Il m'a simplement dit, « Là, on parle d'un gars du monde, hein. » Il m'a dit, « Monsieur, j'assiste à la fin d'une civilisation. » Les frères et sœurs, avec toutes les lois qui ont été votées, on ne peut plus revenir en arrière. On est en train d'assister à la fin d'une civilisation. Et si vous pensez que la 3e guerre mondiale va régler des problèmes, avec les torpilles qu'ils ont et qu'ils nous envoient à des 3000 et des 4000 kilomètres, cette guerre-là, si elle existe, si elle vient, il n'y a personne qui va rester sur la Terre. Personne. Et je suis persuadé que ce seront les moments où il y aura une frayeur terrible sur la Terre, comme jamais, Jésus dit, comme jamais il y en aura eu auparavant, que Dieu va intervenir. Il vous suffit d'écouter ce que l'ancien présentateur de CBS, Walter Cronkite, a dit lors d'une interview à la BBC. Regardez bien la date, le 28 janvier 2000. Écoutez ce qu'il a dit. Et Cronkite, ce n'était pas un imbécile. Un gars très, très bien coté. Nous avons besoin non seulement d'un pouvoir exécutif pour faire appliquer le droit international, mais également des forces militaires pour faire appliquer les lois et assister le système judiciaire afin de traduire les criminels en justice avant qu'ils aient la possibilité de mettre en place des forces paramilitaires, ce qui existe déjà, et qui pourraient utiliser ces armes horribles contre nous. Notre civilisation vit un réel danger face à tous ceux qui appartiennent à ces mouvements terroristes, à tous ces mouvements qui provoquent des guerres civiles, en utilisant toutes sortes de méthodes pour manipuler l'opinion publique. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Auparavant, il était possible que chaque nation s'isole à sa manière sur une île, en particulier les États-Unis, qui sont protégés par deux grands océans. Mais avec les arrivées des armes nucléaires, les Américains vont peut-être finir par réaliser qu'ils ne sont plus protégés par deux grands océans. Ils vont commencer à se rendre compte qu'ils devront peut-être céder une partie de leur souveraineté à un organisme international qui lui fera respecter le droit international avec en tête un homme capable de se faire respecter par tous les pays. La seule façon d'y arriver, c'est d'amener les gens à réaliser que c'est le seul moyen de s'en sortir. Frères et sœurs, tout cela au nom de la paix, 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 et de la sécurité contre le terrorisme. Nous en entendons beaucoup parler aujourd'hui, 17 ans après que cet homme ait publié ça, ait dit ça à la radio. Il y aura plus d'effusion de sang et de violence parmi les nations, c'est ce que nous révèle Daniel 7. Chaque bête qui succède à l'autre est plus assoiffée de sang que la précédente. Jésus lui-même a dit que nous entendrions le bruit, parler de bruit de guerre proche et des nouvelles sur des guerres lointaines. Et il nous dit, ne vous laissez pas effrayer, il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin du monde. Le point que je veux faire ressortir ici, c'est que ces choses ne vont pas aller en diminuant alors que nous approchons de la fin. Elles vont plutôt augmenter avec le temps en violence, en révolte et en colère. La quatrième chose à surveiller, qui sont tous basés sur Daniel 7, c'est qu'il y aura une augmentation de l'hostilité envers les chrétiens et le message évangélique, et on peut le constater aujourd'hui. Je suis profondément convaincu sur ce point depuis un certain temps. Personne ne peut lire l'histoire de Daniel sans être impressionné par son courage face aux moqueries, aux manifestations de haine dont il a été l'objet tout au long de sa vie à cause de sa foi. Rien n'a changé depuis l'époque de Daniel. Les nations du monde détestent encore le peuple de Dieu. Jésus avertit ses disciples qu'ils devraient s'attendre à avoir des ennuis dans le monde. Il a dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si le monde m'a rejeté, sachez qu'il... Si le monde vous rejette, sachez qu'il m'a rejeté avant vous. » Cela fait un certain temps que nous, chrétiens qui vivons en Occident, nous vivons dans une bulle de paix et de sécurité personnelle, alors que nos frères et sœurs du Soudan, de Somalie, d'Inde et de Chine, et dans de nombreux pays, payent encore aujourd'hui le prix de leur vie pour leur foi. Je crois que les jours faciles arrivent à leur fin. Nous sommes en train de voir le vrai visage qui se cache derrière l'humanisme. Des temps difficiles arrivent lentement, mais sûrement. Mon frère, ma sœur, es-tu prêt? Es-tu prêt? Frères et sœurs, je ne suis même pas convaincu que j'accepterai de faire une journée pour la cause de Jésus-Christ en prison. Seriez-vous prêts à accepter d'aller en prison parce que vous êtes chrétien? Seriez-vous prêts à perdre vos maisons parce que vous êtes chrétien? Seriez-vous prêts à perdre tous vos biens parce que vous êtes chrétien? Je vous invite à regarder le film La Croix de Jésus en Chine. Des chrétiens qui ont fait 20 ans de prison parce qu'ils annonçaient l'Évangile dans les rues. 20 ans de prison, séparés de leurs enfants, séparés de leurs femmes. Et avant de sortir, on les a menacés que s'ils recommençaient à prêcher l'Évangile, ils feraient un autre 20 ans. Et cet homme qui rend témoignage a dit, « Bien, laissez-moi à l'intérieur, parce que quand je vais sortir, je vais prêcher l'Évangile. Ce n'est pas vos 20 ans de prison qui vont m'empêcher de le prêcher. Vous m'avez formé à faire de la prison pendant 20 ans. Les 20 prochaines années ne me dérangent absolument pas. Ben, il faut aimer le Seigneur. Hein? Il faut avoir une relation étroite avec le Seigneur. Hein? » Épaphras, Boris, tu te souviens d'Épaphras, hein, qui est mort il y a 3 ans, gros comme une planche à repasser, condamné à 20 ans de prison. Il évangélisait tellement dans la prison qu'on a décidé de s'en débarrasser, de le libérer. Après 15 ans, non, vous m'avez condamné à 20 ans, je veux faire mes 20 ans. Quel prisonnier qui insisterait devant les autorités de dire, vous allez me faire faire mon temps au complet, alors qu'ici on vogue sur 2 libérations conditionnelles, ici en Belgique comme au Canada. Alors, vous savez ce qu'il a fait? On l'a libéré. Eh bien, il est sorti, puis voilà, juste à côté de la prison, il y a un appartement pas plus grand qu'un garde-robe. Alors, je ne sais pas comment sont les garde-robes en Belgique. Les miens ne sont pas grands, mais... Eh bien, il vivait là-dedans, et il jeûnait 5 jours par semaine. 5 jours par semaine pour la conversion des prisonniers. Et ils n'ont pas eu sa peau, hein, parce qu'à chaque jour, s'il n'était pas dans la prison, à chaque jour, il allait rendre visite aux prisonniers. Frères et sœurs, notre génération a besoin de ce genre de chrétiens. Parce que quand la séduction de l'Antichrist va arriver, ceux qui ne sont pas solidement fondés dans la parole, ceux qui remettent en question la littéralité des Écritures, vont lâcher prise et ils vont suivre le séducteur de tous les temps. Quand je vous ai dit tantôt que je ne prenais pas le temps de lire ma parole, c'est que je ne prends pas le temps de lire ma parole comme je devrais la lire. Frères et sœurs, il va y avoir un esprit de séduction comme jamais il y en a eu depuis le début du monde, nous dit la parole. Essayez de réfléchir à ça. Hitler, qui n'était même pas allemand, a réussi à séduire une nation complète. Et Hitler, comparé à l'Antichrist, c'est un bébé dans le berceau. Frères et sœurs, on a besoin d'être bien équipés, d'être bien armés avec la parole de Dieu pour affronter ce qui s'en vient. Et l'Europe ne sera pas épargnée parce que c'est là que ça va se passer. L'ancien empire romain est en Europe. Et quand vous lisez les Écritures, les États-Unis n'ont rien à voir dans l'histoire. La cinquième chose à surveiller, qui est toute basée sur Daniel 7, c'est qu'il y aura un rejet massif de la moralité traditionnelle. L'humanisme a pour objectif de produire une vision du monde qui exclut Dieu. Nous avons donc la théorie de l'évolution du Big Bang qui remplace le principe de la création, l'immoralité sexuelle généralisée et la redéfinition du mariage et de la famille. Et ça, ça vient de nos propres gouvernements. La Bible nous met en garde contre ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Préparez-vous, frères et sœurs, car le pire est encore à venir et je ne suis pas pessimiste. Je suis en train de vous donner la réalité de ce qui est écrit dans les Écritures. Il y aura des moments où les méchants sembleront avoir tout gagné. Et au cours des 3 dernières années et demie du règne de l'Antichrist, les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu considérons que Dieu a été détrôné et que le monde est complètement tombé en adoration devant l'Antichrist. Alors que ces jours approchent rapidement, ne soyez pas surpris pour en parler des victoires préliminaires des forces des ténèbres. Après tout, le monde entier, frères et sœurs, est déjà à genoux devant le diable. Il règne comme une sorte de roi squatteur sur le monde que Dieu a créé pour sa propre gloire. Frères et sœurs, jusqu'à ce que Dieu le chasse et le détruise, il fera la loi et il semblera invincible. Quelle différence cela fait-il pour nous? Après tout, il s'agit d'une ancienne prophétie qui fait référence à de l'histoire ancienne et à des événements futurs. Est-ce que cela devrait vous intéresser? Est-ce que cela devrait m'intéresser? Comment alors devrions-nous vivre? Voici 5 réponses en terminant à cette question. Ce que nous est révélé dans Daniel devrait augmenter notre confiance en Dieu. Dieu connaît l'avenir et il est le Dieu de demain, il est le Dieu de l'éternité. Bien que beaucoup de choses qui se passent autour de nous n'aient aucun sens, nous pouvons nous reposer avec la pensée que Dieu élabore son plan étape par étape et que ce plan se réalisera un jour. Vous dites « Amen » à ça. C'est votre espérance, frères et sœurs. Sinon, mangez et buvez parce que demain, vous allez mourir. Dieu ne s'inquiète pas de la petite corne, ni d'aucun autre corne d'ailleurs. Il sait comment désosser l'Antichrist lorsque le moment sera venu. Alors, prenons courage et faisons confiance à Dieu. Deuxièmement, ce qui nous est révélé dans Daniel qui devrait nous encourager, c'est ceci. Nous devons être amenés à développer notre patience pendant que nous attendons. C'était certainement un message que les Juifs en exil devaient entendre régulièrement. Prenez patience, car Dieu va vous délivrer, car Dieu va intervenir. Même si nous ne vivons pas suffisamment longtemps pour voir l'accomplissement final de Daniel, nous savons que tôt ou tard, tout se passera exactement comme Dieu l'a annoncé. Soyons patients, le Seigneur achèvera ce qu'il nous a promis. Troisièmement, ce qui nous est révélé dans Daniel, c'est ceci, nous amener à arrêter de faire confiance dans les royaumes de ce monde. Les royaumes du monde, les entreprises du monde et les carrières du monde viennent et s'en vont. Ils voient le jour, puis s'effondrent et bientôt Dieu détruira tout cela. Nous vivons dans le monde, mais faisons attention de ne pas tomber amoureux du monde. Quatrièmement, ce qui nous est révélé dans Daniel 7, c'est nous rappeler régulièrement que l'esprit de l'Antichrist est l'esprit de ce siècle. C'est ce que Jean nous rappelle au verset 18. Du chapitre 2 de sa première épître. Il écrit qu'il y a déjà beaucoup d'antichrists dans le monde, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'adversaires du Christ qui sont apparus. C'est ça que ça veut dire, Antichrist, un adversaire du Christ. Ce sont des hommes et des femmes dont le but est de séduire les gens pour les inciter à les suivre sur la voie de destruction personnelle par leurs belles paroles. Ne se souciant d'eux que d'eux-mêmes, ils ne reculent devant rien pour gagner des adeptes. Méfions-nous de ceux qui nous promettent la paix, le bonheur et la sécurité en dehors de Dieu. Cinquièmement, ce qui nous est révélé dans Daniel devrait nous amener à nous encourager les uns aux autres face aux difficultés à venir. Vous vous demandez peut-être si je vous ai dit que je croyais à l'enlèvement de l'Église, mais moi je ne peux pas vous dire combien de temps ces choses vont arriver avant l'enlèvement. Cela reste caché dans l'esprit et le cœur de Dieu. Et si Daniel 7 devait être prêt à la lettre, il prédit une détérioration de la condition spirituelle de l'Église alors que nous entrons dans la dernière période de l'histoire du monde. Frères et sœurs, si les chrétiens qui sont au ciel pouvaient jeter un regard sur ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui, ils nous diraient, qu'avez-vous fait avec l'Évangile que nous avons laissé? Frères et sœurs, il y a des paroles d'encouragement dans la Bible. Il y en a partout. Il y a des paroles d'exhortation aussi. Il y a des paroles pour reprendre les gens aussi. Mais les chrétiens dans l'Église ne veulent pas en entendre parler. Ce qu'on veut, c'est des paroles d'encouragement. Encourage-nous, stimule-nous. Stimule-nous pour qu'on retrouve la joie, qu'on retrouve la paix. Frères et sœurs, pourquoi? Parce que la plupart de nos chrétiens, je le dis, ne connaissent pas leur Bible. La source de leur encouragement, la source de leur bonheur, la source de leur paix, la source de leur joie, elle ne se trouve pas dans le prédicateur, elle se trouve dans la parole de Dieu. Mais on veut de l'entertainment dans l'Église aujourd'hui. Ça prend des spots. Il manque juste le stroboscope, comme dans les discothèques. Il faut créer de l'ambiance. On ne se contente plus seulement de la parole, comme les Juifs dans l'Ancien Testament. Comme les Juifs. Et Dieu les envoyait en exil. Allez faire une coupe d'année à Babylone. Allez. Vous ne voulez pas être mes esclaves à moi, vous ne voulez pas être soumis à moi, bien allez vous soumettre à des païens. Allez vous soumettre aux Babyloniens. Et là, on voit dans les psaumes, il y a un psaume qui était composé là-dessus. Là, il pleure. Tout le monde pleure maintenant. Tout le monde s'ennuie de Dieu. Mais personne ne veut faire la volonté de Dieu. Frères et sœurs, en visitant des églises, en parlant avec des chrétiens de d'autres églises, frères et sœurs, la parole, ce n'est pas nos priorités dans nos vies. Ce n'est pas leur priorité. La priorité, c'est qu'il ne leur arrive rien de mal. Même s'il y en a qui font le contraire de ce que Dieu demande, la priorité, c'est qu'il n'arrive quand même rien de mal. C'est que Dieu les oublie. C'est que Dieu ne voit pas ce qu'ils font. Qui est contraire, complètement contraire à la parole de Dieu. Dieu nous appelle à nous fortifier, à nous appuyer sur ses promesses en attendant que le Seigneur Jésus revienne nous chercher. Vous êtes devant moi aujourd'hui. Je ne sais pas si vous écoutez ou si vous entendez. C'est deux choses différentes. J'ai déjà amené une prédication sur la critique un jour. Je suis descendu au sous-sol, prenais un café. Et il y avait 7 personnes qui critiquaient les autres. Là, je ne sais pas où ils étaient pendant le sermon, mais ils critiquaient tout le monde. Et c'était assez fort, en plus, ils ne se cachaient pas. Enfin, c'est ça, ça devrait nous donner des... Ça devrait nous interpeller, se demander pourquoi on vient à l'Église. J'ai déjà dit que la religion évangélique, ça existait. On vient à l'Église pas pour le regard de Dieu, pour le regard des autres. Si je ne viens pas plusieurs dimanches, qu'est-ce que les membres vont penser? Si je ne prends pas la Sainte-Cène alors que je ne devrais pas la prendre, je vais la prendre parce que qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Si je ne prends pas la Sainte-Cène, ben, si jamais on a besoin d'un diacre ou d'un ancien, ben, on ne me choisira pas. Frères et sœurs, pour quelle raison on vient dans nos églises aujourd'hui? Est-ce qu'on aimerait mieux être à la batte le dimanche matin plutôt qu'à l'église? C'est des bonnes questions. Je ne porte pas de jugement, je vous interpelle. Hein? Comme ça m'interpelle moi, en premier lieu. Frères et sœurs, est-ce que le feu du Seigneur brûle dans nos cœurs? John Wesley, quand il a accepté le Seigneur, il dit, « Il y a un feu dans mon cœur qui a commencé à brûler. Et j'ai tout fait pour qu'il ne s'éteigne jamais. » Est-ce qu'on garde la flamme qu'on a reçue La flamme du premier amour qu'on a reçu à notre conversion, est-ce qu'on la garde allumée dans notre cœur, frères et sœurs? Ou si on aurait besoin de 4-5 frères ou 4-5 sœurs qui viendraient souffler sur la braise pour que ça reprenne vie? Frères et sœurs, on a des enfants qui ne sont pas au Seigneur. On a de la parenté qui n'est pas au Seigneur. Est-ce qu'on pleure? Est-ce qu'on est capable de verser une larme parce qu'on sait où ils vont passer l'éternité? Dans le lac de feu, ce n'est pas une image. C'est une réalité. Hein? Il n'y a pas un gars comme Jésus qui a parlé autant de l'enfer dans tout le Nouveau Testament et dans toute la Bible. Et pourquoi il a parlé de l'enfer? Parce qu'il sait ce qui va se passer là. Et ce n'était pas une image. C'est un mot qu'on n'est même plus capable de prononcer dans des églises. Péché. Enfer. Frères et sœurs, quand les chrétiens d'en haut, s'ils pouvaient nous regarder et qu'ils regardent l'état de l'Église aujourd'hui, ils pourraient se dire, qu'est-ce qu'on a fait avec l'Évangile qu'ils nous ont laissé? On comprend mieux pourquoi Jésus dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Trouverai-je encore la foi? La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et pour qu'il y ait la foi dans l'Église, il faut que la parole de Dieu soit prêchée. Trouverai-je encore la foi, dit Jésus. Sixièmement, eh bien, Daniel 7 nous rappelle que ceux qui appartiennent à Christ sont du côté des vainqueurs. Je ne vous lirai pas tous les versets que j'ai notés, mais je vais lire celui-ci, Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, vous serez persécutés dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu la puissance que le monde peut exercer sur vous. » Et c'est le dernier point de la vision étonnante de Daniel, la royauté, la souveraineté, verset 27. Et la grandeur de tous les royaumes terrestres seront attribués au peuple saint du Dieu Très-Haut. La royauté de ce peuple durera éternellement et toutes les puissances du monde lui obéiront et le serviront. Ça fait réfléchir. Hein? Frères et sœurs, à la fin, ceux qui connaissent le Seigneur Jésus régneront avec lui. Aujourd'hui, Dieu pose sa main sur nous et nous voit vivants au milieu de tout ce qui agite les nations, qui verse le sang des innocents. Il nous voit lorsque nous sommes parfois confus et frustrés. Il sait que nous sommes facilement déroutés par les circonstances de la vie et que nous nous égarons rapidement. Nous faisons partie de cette grande mer d'êtres humains que Daniel a vu dans son rêve. Mais voilà, au milieu de tout ce qui se passe autour de nous, Dieu nous demande de nous approcher avec assurance du trône où se trouve la grâce. C'est là que nous y recevrons le pardon et que nous trouverons la grâce nécessaire pour être secourus au bon moment, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Admirons celui qui détient le déroulement de l'histoire entre ses mains. Luc 21, 28. « Quand ces événements commenceront à se produire, dit Jésus, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance se rapproche. Je trouve un grand encouragement du fait qu'une grande pierre a frappé la statue dans Daniel 2 et l'a brisée en éclats. Cette pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le rocher des siècles, la pierre qui fait trébucher les hommes, le rocher qui les fait tomber et le rocher de notre salut. Il est la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient et qui maintenant est la pierre principale pour le salut de quiconque croit. » Et un jour, cette pierre brisera la statue, nous dit Daniel, et tous les royaumes disparaîtront. Frères et sœurs, en terminant, où serez-vous lorsque la pierre frappera la statue, telle que décrite dans Daniel? Où vous trouverez-vous quand la pierre frappera la statue? Si vous êtes sur la pierre, vous êtes en sécurité. Si vous êtes sous la pierre, vous serez écrasé comme tout le monde. Construisons notre vie sur la pierre du salut de Dieu, le rocher des siècles, le Seigneur Jésus-Christ. Tenons-nous sur cette pierre et au dernier jour, frères et sœurs, nous serons toujours debout quand tout le reste aura disparu. Amen.